Seigneur, Père éternel, Père chéri, au nom de Jésus, je te demande de nous bénir tous ensemble dans ta sainte parole. Et Seigneur, que tu alimentes nos âmes en profondeur, en vérité et puissamment par ton Saint-Esprit. Et au nom de Jésus, amen. Mm-hmm. Amen. Donc c'est Halloween. Quand on circule dans les rues, on voit toutes sortes de choses. C'est assez impressionnant. Moi, c'est même pas comme ça en enfer. Ce que je vois là, avec des masques et tout ça, des trucs, c'est même pas comme ça en enfer. Moi, à 4 ans, quand j'étais gravement malade, j'ai vu l'enfer, c'est pas comme ça. Ça, c'est de la comédie. La comédie avec une mort physique, avec une pourriture dans le cercueil, c'est une comédie jouée face à la corruption qui nous attend et qui fait peur. Mais la mort éternelle dans l'enfer, oh, c'est bien pire, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Vous lisez chapitre 16 de Luc et vous voyez que le riche qui n'a pas fait attention aux pauvres qui venaient pour manger, et dans les tourments éternels, dans le feu, il souffre. C'est là, cette image-là que j'ai vue à 4 ans et que mon père a vue 2 heures avant de mourir. Donc la mort existe bien, j'en suis persuadé. Et quand j'ai dit au Seigneur, si quelqu'un priait pour moi, je guérirais, personne n'est venu. J'étais dans un milieu qui ne croyait pas du tout au Dieu Tout-Puissant, à Jésus-Christ vivant. 2 jours après, j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, si je suis guéri, je te cherche toute ma vie, même si tout le monde est contre. Et le lendemain, je courais comme un lapin. La puissance de Dieu existe. Je l'ai vu souvent. La misère de la vie existe aussi. Les péchés existent. Je me suis souvent égaré. Et les attaques de Satan sont nombreuses. Mais tout ça, nous allons analyser ce que c'est que la puissance de l'Église. Nous allons donc d'abord prendre des textes, je ferai des commentaires après. Colossiens chapitre 2, verset 10. Colossiens, c'est enregistré, ça sera sur le site probablement. Grâce au bon soin de notre frère Jean-Christophe. Colossiens chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ nous donne tout. Nous avons tout. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est ressuscité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et toute autorité. Satan, les anges, les manifestations démoniaques qui vont se multiplier sur la terre rapidement, n'ont pas d'autorité sur Christ. Si réellement vous avez une relation vivante, profonde avec Christ, et que vous vous rangez derrière Christ, c'est-à-dire que vous le suivez, pas vivre en électron libre alentour de lui. Vous le suivez, vous lui obéissez, vous priez prenez le temps de prier, de vous adresser à lui et de le fréquenter à travers la parole, là où il vous parle. Le Christ est votre défenseur. C'est clairement mis dans ce verset. Vous avez tout pleinement lui qui est le chef de toute domination et toute autorité. Satan ne peut pas être votre chef. Il ne peut pas avoir d'autorité sur vous si réellement vous êtes unis à Christ. Il a fallu que j'arrive à 42 ans pour me rendre compte que je n'étais pas sous l'autorité de Christ. Et ça, c'est grâce à un jeune pasteur qui avait peut-être 35-36 ans, qui m'a repéré, comme parfois moi je repère les gens maintenant, je le vois. Eux ne le voient pas encore, ceux qui sont. Et par la suite, un homme qui a prophétisé, il y avait 600 personnes, il s'est levé au bout de la salle. J'étais vraiment visé en plein. Et ensuite, un prêtre qui avait sauvé la vie à Marie-Hélène, et qui était vraiment un homme de Dieu, qui avait une foi profonde en Christ et qui aimait et connaissait la parole de Dieu. Et donc, le premier c'est Jim Dieu, le deuxième ne m'a pas dit son nom, il n'a pas voulu le dire, mais j'ai été le voir, on a discuté, et le troisième c'est Marc Duquerini, qui est peut-être auprès du Seigneur maintenant. L'autorité de Satan n'est pas sur le chrétien. Faut-il se présenter devant Christ dans la prière et dire « Seigneur, je te suis, je marche par tes forces. » Honnêtement, entièrement, sans rien d'autre, sans chipoter. Ça, c'est la base de la bonne marche avec Christ. C'est ce que j'ai dû faire à 42 ans. Alors, Colossiens 2,15... Christ a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Christ a dépouillé les dominations et les autorités. C'est l'image dans l'Empire romain. Par exemple, Jules César vient mettre la raclée aux Gaulois, pourtant on était en bon terme, la Gaule était en bon terme avec Rome. Il y avait déjà des voies romaines, il y avait déjà du commerce, un peu comme on fait du commerce avec la Chine, mais ça n'a pas suffi à Rome. Comme ça ne suffira pas à la Chine, un jour, ils ont envahi. Pourquoi ? Parce que le but était que nous devenions des esclaves, qu'on vend sur les marchés à Rome, parce qu'il y avait un tas de fainéants, un tas de gens incapables, et il fallait prendre les gens là où ils étaient, qui savaient travailler, et surtout qui ne rouspètent pas. On les délocalisait, comme on dit, on les déstabilisait complètement. Et on changeait leur nom et tout, et voilà. Et donc Rome a pris possession d'un million de gens comme ça, et en a fait des jouets. Et l'Europe a essayé avec le monde, elle a fait ça avec l'Afrique, avec la Chine et tout le monde. Maintenant c'est son tour d'être le jouet. À chacun son tour. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que Christ, dans cette image de la grande Rome qui amène des millions d'esclaves là, et qui défilent derrière César, derrière l'armée, ils vont être vendus pour payer la guerre, pour payer les futures guerres, pour payer les palais, pour payer les colisées, pour payer les guindailles, pour payer la prostitution sacrée, etc. Tout ça, eh bien, tous ces gens-là étaient vendus. Ils étaient dépouillés, ils étaient humiliés, livrés à rien. Eh bien, ici, suite à la mort et à la résurrection de Jésus, les démons ont été humiliés, couverts de honte derrière Jésus, quand Jésus s'est présenté au ciel et a été glorifié, était assis à la droite du Père. Psaume 110, le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Eh bien, ça veut dire ça, le Seigneur dit à mon Seigneur, le Père dit à Christ, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, il y a une autorité absolue du Père et du Fils sur ce monde conduit, habité, tiraillé par des démons. Une autorité absolue. Je trouve que parfois, sentimentalement, dans les conversations, quand j'entends les chrétiens, même chez moi, parler, ils sont trop impressionnés par le mal, trop impressionnés par ce qui se passe. Alors que Satan est déjà voué à la raclée éternelle. Rappelez-vous que quand Jésus traverse la mer de Galilée, en barque avec ses apôtres qui n'y connaissent rien du tout, qu'ils le suivent, ils ont bon cœur, ils aiment Jésus, et puis ils vont là-bas dans une région de Gadara où les Juifs n'ont jamais pu installer la Torah, la religion juive. C'est vraiment une poche, comme un territoire, mais récalcitrant, hostile, mauvais, quoi. Et la région de Gadara. Et ils arrivent là, il y a un homme qui est dans un autre texte, je dis qu'il y en a deux, ils sont en train de hurler, ils sont tout nus, tout ça. J'en ai déjà vu des gars comme ça, hein, ouais. Ça existe. Hein. Et alors, c'est invraisemblable, mais c'est comme ça. Hein. Alors, parfois, c'est votre père en fils, hein, dans les familles, ça, même, ça se transmet. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il arrive là et les gens ont essayé de mettre des chaînes, ils cassent les chaînes. Effectivement, c'est pas possible. Il y a une puissance en eux, c'est pas possible. J'ai vu un jour un gars se déchaîner, la puissance était terrible. Moi, j'ai pris le nom de Jésus, que Jésus soit entre lui et moi, parce que c'était fini. Alors, ce qui se passe, c'est que Jésus est là, et le gaillard, ou les deux gaillards, suivant le texte, disent ceci. Et ça, c'est les démons à travers. Ils disent, es-tu déjà venu pour nous tourmenter? Est-ce déjà le temps de nous perdre? Ils le savent. Donc, pas de doute, la victoire est à Christ. Hébreux 2:14. Celui qui est venu derrière la maison, parce que son frère avait accepté Christ, celui qui est venu habillé en or avec un gros médaillon à l'Akbar, derrière chez nous à la maison, là, derrière, qui est venu et qui m'a menacé, il est impossible que je lui échappe. Karaté, boxe, tout le reste. Le sang réclame le sang. Donc son frère s'était converti deux jours avant, ou le jour avant, et il avait parlé. Il aurait dû... Quand un musulman se convertit, il faut qu'il soit extrêmement discret, les amis. Très discret, pendant des années. Ou alors, il faut qu'il parte loin, hors de sa famille, qu'il change de nom et tout. Mais ce qu'il y a, autrement, c'est grave ce qui se passe. Les démons se déchaînent, hein. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le sang réclame le sang. Donc, il a repris le fils et le chrétien a dit, « Monsieur Bayon, on ne se reverra que dans des années. Sinon, nous allons disparaître tous les deux. » Et je l'ai déjà croisé, il est dans le quartier Abbé de Marie-France et Christian. Il est encore sous domination. L'autre l'a fait mettre à genoux, là, tout près du marronnier qui était là. Et il a insulté, et tout le bazar. Et puis après, il a hurlé, il a dit, je t'amène à Bar-le-Duc, chez mes tontons, imams, pour chasser les démons des chrétiens. Par la suite, j'ai rencontré cet homme, déchaîné, ou enchaîné, comme vous voulez. Je n'ai rien dit, je le croisais, je le priais, parce que ce qu'il habite est dangereux. Lui, c'est une lavette, c'est un prisonnier de Satan. Et puis au fur et à mesure du temps, un jour, j'ai dit, Seigneur, est-ce le temps de lui parler? Et le Seigneur m'a dit, oui, va vers lui. Le Seigneur m'a dit dans mon cœur, j'ai été vers lui, j'ai serré la main, j'ai salué, et depuis lors, je le salue. Et un jour, il m'a dit vraiment des gentilles paroles, des très gentilles paroles. Comme quoi, un homme n'est qu'un homme. Hein. S'il y a des démons en lui, c'est pas à confondre avec l'homme. C'est pas à confondre avec l'homme. L'homme peut, parce qu'on prie, parce qu'on utilise les armes du Seigneur, soyez doux comme la colombe et rusé comme le serpent, prière, adoration, intercession, et être derrière le Seigneur, pas improviser quelque chose vis-à-vis de tout ce qu'on rencontre, les humains, être derrière le Seigneur, toujours, pour le Seigneur, avec le Seigneur. Eh bien, on voit le terrain tout doucement diminue pour Satan. Ça, c'est une expérience que je vois chaque fois. Mais ça ne nous appartient pas de pousser Satan hors de son territoire, des hommes qui l'habitent ou des lieux qui l'habitent, etc. Ça ne nous appartient pas. Si le Christ le veut, oui, alors je peux le demander. Donc, Hébreux 2, 14. Verset 9. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. C'est pas des anges du ciel, c'est pas des anges qui aiment Dieu, qui aiment le Christ, c'est des autres. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. C'est-à-dire, il souffre la mort pas par accident. C'est une immense grâce. C'est la grâce qui appartient au Fils de Dieu de s'offrir que Isaac, sur le mont Morija à Jérusalem, n'avait pas. C'était un humain avec des péchés, bien qu'il soit de très bonne volonté, qu'il avait peut-être 20, 22 ans, 25 ans, parce qu'il fallait parler tout le bois pour aller arriver au-dessus, donc il n'était pas un gosse, il était conscient. Et il dit à son père, Abraham, où est l'agneau? Dieu y pourvoira. Et finalement, cet endroit, il y avait Jéré, Dieu pourvoira, c'est l'endroit où Jésus a été condamné par le Sanhédrin, ensuite mené hors de la ville, comme un pestiféré, comme un fils de Satan, sur le mont du crâne. Ce qui se passe, c'est que c'est par la grâce de Dieu que Jésus a souffert la mort pour nous. Il n'a pas souffert la mort par fatalité, parce que Satan était plus fort que lui. Il n'a pas été crucifié, insulté, et tout le reste, on passe les détails, parce qu'à mon avis, ça ne devait pas être brillant, puisqu'il a porté toute meurtrissure. Il y en a beaucoup d'autres. Eh bien, c'est pas par fatalité, parce que Satan avait le pouvoir. Vous savez, dans le film le plus art, là, le film sur Jésus dans la Passion, il y en a un, là, on voit une espèce de fantôme blanc qui apparaît. On flagelle, là, il est plein de sang et tout ça, je ne sais plus.
La Passion du Christ.
Oui, mais non, le nom du film, c'est par qui ?
Mel Gibson.
Mel Gibson, oui. On voit un fichu machin tout blanc qui parle, qui fait des grimaces. Mais il n'a pas d'autorité. Mais là, Mel Gibson lui en donne quand même particulièrement une drôle. Je ne sais pas comment Mel Gibson a été imaginé ça. Ici, c'est par la grâce de Dieu que Jésus est mort. C'est dans une grâce immense, celle de nous rejeter. La grâce de sa mission, la grâce de nous aimer. Il mit le comble à son amour, dit Jean. C'est pas Satan qu'il a eu, c'est Jésus qui s'est offert. Alors, un peu plus loin, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, nous, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Il a été élevé, il n'a pas été abaissé, en fait. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée ». Et encore, je me confierai en toi, encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. C'est la grâce de Christ qui nous aime à ce point-là. C'est la caractéristique de sa personne, de son immense, infini amour, plus haut que les montagnes. Et il y a quelque chose juste après. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, donc humainement, il y a également participé lui-même, afin que par la mort qui n'est pas due au péché, ni à l'autorité de Satan, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans leur servitude. Donc il rend clairement, il met un message, Satan, tu n'as plus rien à dire sur la terre. Le premier humain est ressuscité, tous les autres suivront. Je n'ai pas écouté tes tentations dans le désert, Matthieu 4. Un humain ne t'a pas suivi. Les autres ne te suivront plus un jour. T'as perdu. Je me présente devant mon Père, voici les frères que tu m'as donnés par le sang que j'ai versé. Méditez ce texte. La puissance de l'Église et dans la puissance du sang de Christ. Luc 9, 54. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, parce qu'il y avait des Samaritains, etc., et on ne voulait pas recevoir les disciples, ni Jésus. Chez certains Samaritains, pas tous. Hein. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Comme Élie le fit, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Qu'est-ce que fait Jésus ? Il leur enseigne à ne pas détester les hommes, à ne pas les rejeter, à ne pas les maudire. Pourquoi ? Parce qu'il faut distinguer l'homme et son péché. Jésus aime le pécheur, il n'aime pas le péché. Jésus aime l'homme et n'aime pas ceux qui sont ceux qui possèdent certains hommes, certaines femmes, voire certains enfants, certains vieux, vieillards. Il leur apprend à faire la différence et ils ne peuvent pas mélanger tout. Tout mélanger. Nous aussi. Nous aussi. Vous savez que dans un autre texte, il leur dit « race d'incrédule ». Vous courez d'un corps circoncis jusqu'à quand vous supporterez-je de, pour ses disciples, hein, il avait déjà dit ça aux prêtres, mais pour les disciples, pourquoi mais ben, ils voulaient faire le royaume de Dieu par la force, obligé. On n'oblige pas quelqu'un à quitter son péché. On n'oblige pas quelqu'un à quitter Satan et sa fréquentation des démons. Il faut simplement être animé du Saint-Esprit et pas d'un autre esprit. Et le Saint-Esprit de Christ est le seul qui peut changer le pécheur, y compris le possédé. Donc l'Église a une belle mission, elle ne doit pas confondre sa mission et souvent un tas de choses qu'on a vues autre part. Dans certaines églises, on voit quelqu'un avec des problèmes, ça y est, on met les mains, il tombe par terre. On va le délivrer. Chers amis, ça c'est de la blague, hein? C'est pas comme ça que ça se passe. Alors, pour finir, parfois, toute l'assemblée se met à vouloir faire ça partout. Et puis, ils n'ont que des problèmes d'impureté, des problèmes de divorce, ou d'orgueil, ou d'argent. En général, ce genre de pasteur a une belle grosse bagnole et fait des beaux voyages. Mais Jésus-Christ allait à pied, il n'avait pas de pierre pour reposer sa tête. Ne confondons pas les torchons et les serviettes. Jean chapitre 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Jean chapitre 3, verset 17. Mais il faut que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Et celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, Dieu a envoyé son Fils, parce qu'il a tant aimé le monde, verset 16, qu'il a donné son Fils unique. C'est une grâce immense faite au monde. Elle est actuelle. Elle est présente. Elle est agissante. Elle a autorité. C'est la puissance des vrais chrétiens. Le chrétien n'a pas de puissance. C'est la puissance de Christ. Quand on suit Christ, on voit sa puissance se réaliser. Non pas pour notre gloire, non pas pour nous glorifier et croire qu'on est puissant. Car généralement, pour voir la puissance de Christ, c'est comme pour Paul dans 2 Corinthiens 10, « Ma grâce suffit, c'est dans ta faiblesse que je me glorifierai. » Et dans 2 Corinthiens 13, verset 8, il est dit ceci, nous n'avons pas de puissance hors de la vérité. Nous n'avons de puissance que dans la vérité. Et la vérité, c'est qui ? Jésus, Jean chapitre 14. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous n'avons de puissance que dans la vérité. Il faut être en Christ. Ça suffit. Humblement, humblement. Paul le dit dans Galates 2, 22. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié en Christ. Donc finalement, crucifié, ça veut dire quoi? C'est que les œuvres du péché sont crucifiées, sont mortes en moi, par l'effet de la présence de Christ en moi, mais aussi de son sacrifice à la croix. Alors quelles sont les œuvres de la chair en général? OAS, orgueil, argent, sexe. OAS, pas compliqué. Regardez comment ça va dans le monde. Ajoutez-y la peur. La peur, ça c'est une arme qui marche bien. OASP. Alors, les œuvres de la chair, c'est ça. I, peut-être, intérêt. Intérêt. Intérêt de se faire valoir, intérêt d'être fort, intérêt d'être puissant, intérêt d'être reconnu, intérêt de bien parler, intérêt d'avoir 300, 500 personnes dans une église, intérêt de ce qui est beaucoup d'argent dans les paniers de l'offrande, intérêt qu'il y ait des beaux palais, des belles basiliques, des beaux temples. OSPI. N'oubliez jamais, Jésus, pour celui qui aime Jésus, qui le suit, tout est crucifié en lui. Il ne laisse pas de miettes au péché ni au diable. Quand nous allons dans Jean, au chapitre 5, Jean chapitre 5, petite lettre, hein, c'est pas facile depuis que j'ai donné ma Bible, l'autre Bible, à mamie. Voilà. verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, c'est pas de manière distrayeuse, hein, vous vous rappelez ce que Jacques a dit dans son épître, hein, pour la mettre en pratique. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, en Dieu le Père, a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Alors, nous voyons bien que la puissance de l'Église, la puissance des vrais croyants, c'est la vie de Christ en nous. C'est pas autre chose. C'est pas le thème de la prospérité. Si vraiment le Seigneur est avec moi, je dois avoir des bonnes affaires. Si ça va mal, c'est que j'ai péché. Ah, je vous conseille là-dessus sur Netflix. Netflix, hein, je vois un peu comme ma mère, je fais des bêtises dans les mots. Netflix, il y a un beau film qui s'appelle Merveille du ciel ou Miracle du ciel. Tu l'as vu? Hein? Avec l'enfant qui tombe dans l'arbre. Hein? Mm-hmm. Bon, ça vaut la peine, les amis. Mm. Merveille du ciel. Netflix.
Alors, plus pour cette boîte là parce qu'il y a beaucoup
mais
de
on s'en fout, le film est très bien.
Il y a beaucoup de mauvaises choses.
Tant qu'il le laisse, servons-nous de ce film. Et peut-être enregistrons-le si y a moyen. Avec leur autorisation, si possible, par honnêteté. Alors,
on l'a en DVD. Hein.
Ici, il est mis clairement que nous passons de la mort à la vie lorsque nous gardons la parole de Dieu. Nous gardons Christ en nous, parce que Christ et la parole, c'est la même personne. Et que nous, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment qu'on a la vie, ce n'est pas la vie pour soi. C'est une vie qui va déborder, parce que c'est la vie divine. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Donc les morts, c'est ceux qui sont sans Dieu, sans Christ, qui sont dans le péché, parfois lié par des liens avec Satan. Vous savez, j'aime beaucoup la famille de ma mère. J'ai demandé à ma mère de restaurer tous les temples de ma famille. Il y en a trois. Elle avait de l'argent sur les comptes. J'aime beaucoup. J'ai connu. Il y a eu beaucoup de drames dans cette famille. Et ils n'allaient pas à l'église. Et mon grand-père a été menacé plusieurs fois de mort. On a mis le feu à la maison. Imaginez, on tirait 11 obus, il y a toujours eu des séquelles. Et ma mère était habitée d'esprits désastreux, sinistrosiques, hein, la sinistrose, jusque peu avant sa mort. Et mon grand-père avait radiesthésie, puis il l'a appris à mon père, et puis moi j'ai appris, j'étais curieux de nature. Et comme des curés faisaient des livres sur radiesthésie, du Collège Saint-Joseph à Virton, CNDB maintenant, ben, ça me semblait bon, parce que les curés faisaient des livres très bien faits, puis je tombais sur des autres. Jusqu'au jour où, en voyant les lignes de la main de quelqu'un, je savais dire le passé, le présent, le futur. J'ai arrêté. Aussitôt, pendant 15 jours, j'étais habité d'esprit impur, il me fallait que je me paye une femme, la femme de quelqu'un. Ça me dévorait. Je me suis rendu compte que la radiesthésie était l'antichambre de tous les péchés et je suis tombé une fois à Serranche chez un gars qui était à la Rose-Croix, qui avait un gros dictionnaire sur les arts occultes. La radiesthésie était à la première page, première heure. Je lui ai dit, est-ce que tu me donnes le livre, je brûle le nom de Jésus? Il est venu deux, trois fois occulte. Est-ce que tu veux renoncer à tout ça? Et il a dit non. Un an après, il a assassiné sa mère. Si tu as un maître, tu le suis. Il faut savoir lequel que tu as. Voilà. Il était venu au culte, il a entendu le salut. Il n'en a pas voulu. Il est resté dans la mort. Mais il se peut qu'un mort entende la parole de Dieu, entende l'évangile, et vient dans la vie. Donc, nous avons la possibilité, chers amis, nous avons la possibilité en tant que chrétiens d'apporter la vie. Nous sommes vivants et nous apportons la vie. Nous apportons la parole. Nous ne savons pas comment, mais il se passe que des personnes passent à la vie éternelle. Ce n'est pas notre problème. Nous apportons Jésus et sa parole. Honnêtement, humblement. Si nous ne le faisons pas, ça c'est plus grave. Parce que Dieu veut que la vie remporte la victoire sur la mort. Donc la puissance de l'Église existe. Nous sommes invités à la puissance de l'Église, à la puissance de l'Église de Christ. Matthieu 16. Et sachez bien ceci. Si vous ne croyez pas tout ce que je dis là, vous ne mettez pas en pratique, je n'y peux plus rien. Je peux pleurer toutes les larmes du monde. Et courir à l'autre bout du monde, peut-être. J'ai vu au Bénin dire les mêmes choses, et sur 10 jours, peut-être 600, 800 conversions, je reviens ici, Seigneur, il me faut 2000 ans pour le même résultat, et la même parole, les mêmes enseignements. Ça peut peut-être changer, hein. Il faut être patient. Patience. Si Dieu ouvre, tout d'un coup, fait craquer. Matthieu 16, craquer les cœurs. C'est pas avoir des grandes salles où il y a 2000 personnes, où tout le monde s'avance. Là au Bénin, ils font, mais ils sont pieds nus, ils souffrent tout le temps. Ici, si on s'avance, on a le derrière dans le beurre, alors ça ne coûte pas très cher. Mais ce qu'il y a, c'est que Billy Graham a dit, après des années de prédication où tout le monde s'avançait comme ça, il y en a 5% de convertis. Quel échec! Parce que 95% se sont crus chrétiens et ont fait du mauvais travail, un faux témoignage. J'appelle ça un échec. On doit prêcher sans donner des illusions à personne. Sans les introduire dans l'illusion du salut. Ou ils vont dans le salut, ou ils n'y sont pas. Parce que la parole est une épée, elle rentre dans la jointure des os, dans la moelle des os. Elle doit montrer aux personnes ce qu'elles doivent choisir. Si elle les flappe dans le sens du poil, elle n'est pas rentrée dans les os de la colonne vertébrale. La parole n'est pas faite pour flatter l'homme et l'entraîner dans des illusions. Matthieu 16.
7 ou 16 ?
Matthieu 16, verset 17. Jésus, reprenant la parole, dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. » Pourquoi est-ce que Jésus dit ça ? Parce qu'il a demandé à tout le monde, à ceux qui étaient là, « Qui dit-on que je suis ?» au verset 13. Certains dirent « Tu es Jean-Baptiste ?» Ben oui, on lui a coupé la tête, voilà, il est ressuscité. D'autres, Élie. Ben, Élie était au ciel et il n'est pas mort, il redescend. C'est Élie. Non, c'est pas lui. Jérémie. Oui, Jérémie. Ben oui, Jérémie est assassiné. Le voilà ressuscité, il est là. Ou un des autres prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et voilà ce qui sort de la bouche d'un homme animé par autre chose que sa propre pensée. Animé par autre chose que sa chair. Et Jésus le souligne. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. L'autorité du Père s'est introduite dans la pensée de Pierre. C'est cela qu'il nous faut. C'est cela qu'il nous faut absolument, les amis. C'est pas de la bagatelle qu'il nous faut. Et moi je te dis que tu es Pierre, donc c'est Petros, oui. Dans le texte en grec c'est Petros. Petros c'est un caillou. Donc imaginez, Pierre est là, et Jésus est ici, je ne sais pas moi Jésus. Et il lui dit tu es caillou, Petros. Et puis il retourne son doigt, et sur ce Petra, en grec, je bâtirai mon église. C'est le nom de l'Éternel, au moins 50 fois dans l'Ancien Testament. Alors, je te dis que tu es Pierre, caillou, donc tu feras trébucher les autres, tu tomberas aussi, tu n'es pas plus que ça, et moi je suis le rocher, l'Éternel. Et alors je bâtirai mon église sur moi, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, quand vous êtes, on est bâti sur le Christ, en Christ, attention, il faut chacun s'analyser. Hein. Nous pouvons aller vers les autres qui sont derrière des portes et qui sont dans le séjour des morts. Il y en a beaucoup, hein. Nous pouvons... Viens un peu ici. Je peux t'inviter à venir manger ? Viens un peu. Est-ce qu'on ne peut pas aller passer un quart d'heure à la buvette devant un café, là, sur la terrasse, et se parler ? Toi, viens, je t'ai rencontré une fois dans le bus, j'ai prié pour toi. Est-ce qu'on peut se voir ? Oui. Oh. Toi, je travaille depuis 5 ans avec toi au chantier. Il serait peut-être temps que je puisse te parler un peu. Alors, je referme la porte du séjour des morts. J'en attrape un et je lui parle du Seigneur. S'il est délié du péché, par la parole de Dieu que je lui offre, j'ai fait mon boulot. S'il n'est pas délié, il reste lié, vous ouvrez la porte, vous repoussez dedans jusqu'à la prochaine fois. C'est clair, les portes des morts n'ont pas d'autorité sur le chrétien. Il a l'autorité, lui, d'aller en piquer un au séjour des morts. Le chrétien, la chrétienne, a l'autorité spirituelle en Christ d'aller piquer un pécheur aux ténèbres. Peut-être beaucoup, peut-être pas beaucoup, à chacun sa part comme Dieu l'a donné. N'oubliez jamais, la porte du séjour des morts, l'Église peut, si elle est fidèle, peut aller en piquer un, hop, elle referme. Mais ça ne rentre pas dans l'Église. Ce n'est pas l'Église qui est commandée par les morts. Ce n'est pas des morts spirituels qui doivent être membres de l'Église. Ce n'est pas des morts spirituels qui doivent être baptisés. Ce n'est pas des morts spirituels qui doivent prendre la Sainte Cène. Un mort spirituel, puis-je dire, cher frère, je t'aime. Faites gaffe. Vous pouvez vous tromper lourdement. J'allais chercher des personnes sur le parking et puis arrive un bon, monsieur qui a une belle voiture luxembourgeoise et puis architecte et il s'assied, etc. Et l'après-midi déjà il visite des chrétiens et puis lundi matin je vais au petit magasin, je le vois. Et j'ai déjà vu, été voir un tel. Je dis, t'es architecte, t'as du boulot toi. Normalement moi j'étais dans le bâtiment, on n'arrête jamais, on n'en a pas dessus la tête. Comment ça se fait? Tu ne veux pas venir un peu à la maison? Là où il y avait la grande pièce, il y avait mamie, je l'appelle, on se met à table. Explique-moi, comment tu es chrétien? J'avais été averti parce que j'avais vu une fois une réunion à Algrange sur un terrain de football. Quand je le voyais de loin, je voyais un nuage noir au-dessus de lui. Pas fait exprès. J'avais été averti. Et donc, il parle, il baratine. Clic, 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 comme les chiens là, qui ont des ongles qui ne sont pas usés. Je vais voir dehors, dedans, il n'y a pas de chien. Et comme j'ai lu la Bible de la Septante, en grec, parfois dans Isaïe, Jérémie, les démons sont appelés démonion. Les animaux sont appelés démonion. Certains animaux, démonion. Alors ça m'a éveillé l'esprit, j'ai dit, comment ça se fait que les démons sont venus avec toi ici? Il ne me répond pas, alors j'ai dit, tu ne viens plus jamais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a acheté des bâtiments. Il n'achetait pas. Des personnes canettes, qui étaient veuves, etc., qui avaient beaucoup de maisons, et il leur faisait un papier comme quoi elles auraient droit à une part des loyers. Ils construisaient des appartements, et puis les personnes, les veuves en question, n'avaient pas d'argent. Ils étaient roulés. Il avait été dans 3 églises dans la Moselle, et là, il avait été bien accueilli. Il avait fait des articles dans la gazette pour les rouler dans la farine. Il avait tout vu, il les a salis jusqu'en bas. Jusqu'au trognon. Donc, chers amis, quand un mort rentre dans une église, soyons tous unis pour savoir s'il est vivant ou mort. La communion d'esprit dans une église, le discernement spirituel de l'église n'appartient pas qu'au pasteur. Moi, des fois, je n'ai rien vu. Quand un chrétien voit quelque chose, pasteur, j'ai l'impression que tu te trompes. Pasteur, je ne sais pas, mais... j'ai des doutes. Ou, je dis, pasteur, j'ai eu des cauchemars depuis que j'ai vu ce gars-là, une fois ou deux au culte. Je suis pas tranquille. Puis un deuxième, un troisième vient de me dire, moi j'ai eu des drôles de pressentiments, j'ai eu l'oppression en partie, tout ça. Bon, d'accord, j'entends tout ça. Réunissons-nous, prions. Et puis quand la personne reviendra, on va voir. Nous ne sommes pas une église où les morts doivent régner. Mais la porte de l'enfer, nous la gérons dans l'autre sens. Nous pouvons ouvrir, hop, et un copain de boulot qui ne connaît pas Dieu, lui dire, allez, on passe une heure ensemble. Ou un ancien copain de boulot. Et donc finalement, nous avons une autorité sur la porte du séjour des morts. Et les portes des morts ne prévaudront pas contre elles. C'est-à-dire, n'ont pas d'autorité. Nous avons une autorité. Si nous vivons spirituellement tous ensemble, bien unis. C'est pour ça qu'un chrétien tout seul, il ne peut pas tout voir. Il faut être ensemble, les amis. Il faut vraiment être soudé dans la foi. Il faut chacun avoir sa liberté personnelle dans la vie chrétienne, mais il faut avoir sa richesse en Christ personnelle. Pas seulement son baptême et son étiquette de chrétien. Sa richesse en Christ. Alors, on se parle, on échange. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au verset 19, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Eh bien, si quelqu'un est toujours avec Satan et veut y rester, il sera toujours lié. Mais si tu délies quelqu'un parce que tu as apporté le salut, tu as apporté le bonheur de la foi, le bonheur de confesser ses péchés, même tout seul peut-être, mais on le voit le lendemain ça. On le voit dans les jours qui suivent, réellement quelqu'un qui a confessé ses péchés à Christ. Eh bien, il est délié. Pourquoi? Par la parole sainte, et par la foi que nous avons en commun, par le bon dépôt que nous vivons ensemble. Donc nous avons une autorité sur le séjour des morts. Et il ne s'agit pas de la confession comme Saint Augustin l'a inventé au IVe siècle pour les prêtres de l'Église catholique. Cyprien a inventé en 365 le prêtre, alors qu'il n'y en a pas besoin. On lisait l'Épître aux Hébreux, pas besoin, ça n'existe pas. Le sacerdoce de Christ est intransmissible dans l'Épître aux Hébreux. Ensuite, les sacrements, il n'y en a pas. Et donc, nous avons un bon sacrement. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui sort de notre cœur avec foi. Romains 10. Là, on peut comprendre un peu mieux ce chapitre, ce passage maintenant. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà. Voilà l'autorité spirituelle de l'Église. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Donc, Paul, il a vraiment une passion et une certitude. Cette parole n'est pas une parole humaine. Cette parole est la parole de la vie éternelle. La mort et la résurrection de Jusqu'Christ iront jusqu'au fin fond du monde. Ils vont racheter des hommes par le sang de Jésus. Le croyons-nous, chers amis? Le croyons-nous? Ben, si je vous montre les photos du Pakistan, hein, si vous les voulez sur votre smartphone, je peux vous les envoyer. Vous allez voir que c'est vrai. Et c'est comme ça, autre part. Notre amie Suzanne, qui travaille dans l'Institut biblique à Grange, Suzanne, était missionnaire. Elle travaille pour un organisme chrétien et elle travaillait pour 6 dialectes différents. Elle étudiait les dialectes et elle faisait la traduction de la Bible avec ses 2-3 collègues. Elle avait fait une formation aux États-Unis pour ça, qui est très longue, qui est très difficile. Et elle vivait là, habillée, là, avec le voile, tout le bazar, comme toutes les femmes là-bas, musulmanes. Et puis un jour, sa collègue et elle vont dans un hôpital visiter les malades. Et puis tout d'un coup, elles ouvrent une porte, elles voient des femmes bâchées, comme on dirait. Les autres ferment la porte. Vous êtes chrétienne, vous deux, que les femmes disent. Ces femmes-là, nigérienne a dit, vous êtes chrétienne, vous deux? Alors, elles tirent tout leur voile, nous sommes chrétiennes. Nos maris sont chrétiens. Nous sommes très nombreux dans notre village, dans un village d'à côté. Mais nous nous appuyons comme les musulmans, sinon, l'extrémité de la terre. L'extrémité de la terre. Au-delà de ce qu'on peut imaginer, l'évangile s'est répandu. Chers amis, au-delà, le croyons-nous? Croyons-nous à la puissance de l'Église et de sa parole? Le croyons-nous? Je l'espère. Je l'espère. L'Église n'a pas pour but de changer le monde. Ça, c'est une grave erreur de le croire. On ne peut pas changer le monde. C'est Dieu qui va trancher, pas nous. L'Église n'a pas le but de changer le monde. Jean 18, 36. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus à Pilate. Jean 18, 36. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Mes serviteurs, donc les anges, auraient combattu. Et ils ont mis la raclée à tout le monde, hein, c'est clair. Ce qui arrivera un jour. Évidemment, Jésus viendra comme roi. C'est fini son rôle de sauveur. Le jour que le Père l'envoie comme juge des morts et des vivants, il ne vient plus comme sauveur. Sa mission est terminée. Alors, ce qui se passe, vous voyez bien que le monde est parvenu le changer. C'est dans le temps que le Père a décidé. Moi, je fais mon ministère de salut dans le monde, par ma croix, par mes disciples, par les disciples de mes disciples, par la parole de mes disciples. Je vous offre les extrémités du monde. Connaissez-vous la puissance de Dieu et de l'Évangile, la puissance de l'Église, de la véritable Église? Oui, la voilà. Et nous ne sommes pas là pour changer le monde. Moi, j'ai cru ça tout un temps. Hein. Je me suis planté royalement, je vous le dis. À 42 ans, j'avais cru en Jésus à 16 ans. À 42 ans, j'étais tout seul. J'ai dit, Seigneur, il n'y en a pas un. J'ai fait tout ce que je pouvais. Les mouvements de jeunesse, la coopérative, tout ça. Il n'y en a pas un converti, il n'y en a pas un qui est né de nouveau. Si je meurs, résultat du travail, zéro. Zéro. À la poubelle. Vis-à-vis du ciel, hein. Pour les hommes, peut-être, je vais garder certains copains et tout ça. Alors, je lis 2 Corinthiens 13, 8. Nous n'avons pas de puissance hors de la vérité. Nous n'avons de puissance que dans la vérité. Ce verset-là, coupe. Alors j'ai compris. Pour que quelqu'un naisse de nouveau, je dois enseigner la parole de Dieu sans rien ajouter, sans rien retirer. Alors, il faut décaper tout ce que j'ai reçu dans l'Église catholique, à droite et gauche, que j'ai trouvé dans les lectures, que je me suis forgé moi-même, au bac. Un gros boulot, vous savez. Quand on est bien empêtré, il m'a fallu aller à l'imposition des mains une seule fois de ma vie, avec des évangéliques, à Natoua. Et ils avaient tapé juste. Ils avaient tapé juste sans m'avoir fréquenté, et Marie-Hélène aussi. Ce jour-là, le lendemain, on a commencé une autre vie. Marchez avec les forces du Seigneur, suivez-le. N'écoutez plus votre chair. Et la parole de Dieu, où il n'y a rien d'ajouté, rien de tranché, où la trouver? C'est pas facile, vous savez, dans ce monde. Alors, la petite dame là qui m'avait dit, vous feriez bien les études de pasteur, vous rêvez? Je lui réponds, vous rêvez? Et puis un mois après, elle me dit, vous feriez bien les études de pasteur? Ben, je ne vois pas comment que c'est possible. J'avais déjà changé de ton. Oh, ben, vous verrez un jour. Vous voulez que je vous conduise à des facultés de théologie pour voir? Elle me conduit à Leuven. Ouh, l'ambiance! Je m'excuse des morts vivants. Je suis resté 8 jours à des cours et tout ça pour voir. Oh non, Seigneur, c'est pire que dans l'Église catholique. Et c'était évangélique, hein. Alors, je vais à une autre faculté protestante à Bruxelles. Je vais là, 2-3 heures. Alors avec des professeurs en cravate comme moi, ça fait bien la cravate, hein. C'est ma femme qui veut que je mette un trou. Alors, ce qui se passe, je prends Isaïe 53, vous ne pouvez pas me l'expliquer, il me raconte que des bêtises, pour ne pas dire autre chose. Je dis à cette dame qui s'appelait Laurine, Laurine, ratata, surtout pas ici, il ne connaît pas sa Bible, il invente des conneries. Est-ce que l'on va aller, Laurine? On était dans une petite Peugeot 204, elle conduisait, une pensionnée, et elle, tout d'un coup, elle lâche le volant. « Oh, je connais bien un petit institut biblique baptiste à Algrange, mais ils sont comme ça qu'elle dit. Ils sont comme ça. » Ben oui, elle était d'origine méthodiste, hein. C'est plus large. Alors, et puis, elle ne reprenait pas le volant, j'ai dit « Mais elle est sur l'autoroute, elle qui est trouillarde. » Et puis elle dit « Bah, tout compte fait, si vous allez là, vous pouvez faire ça après, » qu'elle dit. Mais j'y compte bien, vous m'y conduisez demain, s'il vous plaît. Vous m'y conduisez demain. Vous savez la parole de Dieu. La parole de Dieu, pour un chrétien qui chipote avec la parole. Elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais quand vous avez compris que vous avez tout gagné si vous l'acceptez comme ça, oui, après vous avez une grande liberté. C'est ça qu'elle voulait dire. Bon, après, vous pouvez. Vous avez une immense liberté quand vous avez compris et que vous n'ajoutez rien, ne retirez rien. La liberté est en Christ, chers amis. La liberté est dans sa parole. Et elle est faite aussi pour nous embêter un certain temps. Parce que nous sommes des ânes, il faut nous faire avancer. Mais Dieu est grand, il nous aime. Il aime les ânes, il fait des caresses. Alors, nous ne changeons pas le monde. Et nous changeons. Deuxième point, nous ne nous changeons pas nous-mêmes. Ça, c'est pire. Nous ne nous changeons pas nous-mêmes. C'est la parole de Dieu qui nous change. C'est l'amour des frères qui connaissent déjà la parole de Dieu, qui peut, cet amour peut nous aider à changer. C'est des paroles qu'ils disent, des témoignages qu'ils apportent, qui peuvent nous changer. Et effectivement, hein, sur 3 ans à l'Institut, j'ai connu mes meilleurs amis, hein, c'est toujours les mêmes, et puis ça s'est étendu. Hein. Des bons amis, des vrais. Alors.
Tu sais que tu en as dans le fond de la salle ici. Il y en a dans le fond de la salle, là.
Mathieu?
C'est moi.
Ah oui, c'est toi avec ton masque. J'ai cru que t'étais... Il y a un avocat dans le coin qui te ressemble.
Ah, c'est pas moi.
C'est pas toi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, chers amis? L'Église ne change pas le monde. L'Église ne me change pas. La parole me change. Si dans l'Église, il y a des gens qui aiment la parole, ils m'aideront à changer. Ils vont prier pour moi et vont me dire des paroles pertinentes. Pertinente. Peut-être même qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ils vont la sortir et bien, quand je rentre, voilà, ça y est, j'encaisse. Mais ce qu'il y a, j'encaisse pour le bien de Christ, le bien de ma vie divine en Christ. Qui est Christ? Qui est Christ? Acte 4. Quelle heure qu'il est?
Midi.
Midi. Il faut arrêter, je suis en train de m'exalter. Annette, je dois m'arrêter, Annette. Tu me connais quand même.
Acte 4.
Alors, acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Vous avez vu ça? Eh bien, tant qu'on chipote, on n'arrive pas à accepter ce verset. Mais quand nous sommes devenus évangéliques, on avait encore eu une réunion à Aït où il y avait 130 personnes. On a retourné le ciel et la terre dans notre région. Hein. Comme vous le faites avec l'école, il vient des gens. Hein. C'est le même don, hein, le même don social qu'on a, Timothée aussi. Mais ce qu'il y a, après, on ne les a plus vus. Pourquoi? Il y a des gens qu'on allait vers les évangéliques et puis... Alors, il y a une religieuse qui m'a dit que j'aimais bien, hein, un vieux qui vivait dans un centre de ressourcement, où pour finir, il n'y avait plus que des médiums et des yogas et tout ça, il n'y avait plus de chrétiens. Au début, elle était sincèrement chrétienne, cette sœur. Puis après, elle ne croyait plus à la résurrection, plus rien du tout. Elle m'a dit, mais Jean, tu vas perdre tous tes amis. Je sais, c'est un entonnoir. Tu le prends par le mauvais bout. Tu vois l'entonnoir. Et au bout, c'est tout fin. Tu te rends compte, tu vas... Est-ce que tu te rends compte de ce que tu vas perdre tous tes amis? Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Ce verset-là n'aimait pas, n'est pas plébiscité. Acte 4, 12. Le verset n'est pas plébiscité. Mais c'est le verset qu'il faut accepter. Après, on trouve des frères et des sœurs au centuple. Il faut perdre tout. Alors, il vient un groupe de jeunes avec la guitare à la maison. C'était l'entreprise, je courais comme un lapin tout le temps. J'étais adultère, hein, j'avais une maîtresse, c'était l'entreprise. Et ce qui se passe, ils viennent à la porte et ma femme dit, revenez une fois que mon mari est là, elle savait que j'étais là, ils viennent tous avec la guitare, tous des jeunes comme toi, Elodie, toi, Apinel, de tous les pays, et ils viennent chanter. C'était bien, oh c'était beau. Ah, un mois après, deux hommes, de l'âge de Vincent, et puis, et paf, oh la vache, oh, il ne me ratait pas. J'avais été dur, mais il l'avait dur aussi. Et alors, en sortant, il dit, là sur le trottoir, là-bas au bout, tu vois Jean, tous ceux que tu as rencontrés, tu veux les garder comme amis, hein? Tu les perdras tous, à cause de Jésus-Christ. Et ça a été vrai, hein? Ça a été vrai. Vous savez qu'il faut accepter d'avoir mal pour devenir chrétien? Il faut accepter d'avoir mal pour devenir chrétien, les amis. Le jeu en prend un coup. Le gros ego, là, qu'on croit si bien, si bon. Alors, où est Christ? Christ est dans le cœur humilié. Christ est dans le cœur crucifié. Galates 2, 22. Christ est dans le cœur qui sait abaisser. Et qui reste humble, qui ne remonte pas après. Si Christ est mon époux, je suis son épouse. Donc l'épouse est soumise à son mari. C'est facile de dire, hein, ma femme, je suis chrétien, ma femme est chrétienne, elle va me suivre, elle va m'écouter. Hein. Oui, mais si je suis chrétien, je suis aussi l'épouse, moi l'homme. Ouais, pas si simple que ça, hein. C'est pas si simple que ça, les amis. Jean 11, on va terminer. Le combat que nous avons en nous est quelque chose de bénéfique. Car nous avons reçu la vie. Il faut saisir la vie. Et il faut accepter la mort de nous-mêmes. Celui qui donne sa vie à moi la sauvera. Celui qui veut la conserver pour lui-même la perdra. C'est ça, 16 ans qui m'a percuté. Et j'ai échappé à l'emprise de mes parents, de l'école laïque, à cause de ce verset-là. Et j'ai échappé à moi-même, surtout.
J'en conviens.
Le premier obstacle pour Dieu, c'est pas les autres, c'est moi. Alors, Jean 11, verset 4. Donc je vais dire au début, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Donc cette Marie a provoqué un scandale, hein. Tous les apôtres, ils ne l'aimaient pas. Hein. Et t'as vu le fric qu'elle a dépensé là, hein. Ils aimaient le fric. La première maladie. Il faut voir un chrétien qui aime les fricaises. Ça, c'est déjà rare. C'est difficilement conciliable. Paul l'a dit, hein. L'amour de l'argent, une racine de tous les maux. Hein, un épître à Timothée. Alors, cette brave-là, Marie est là avec Marthe, et bon, elles ont perdu leur sœur, et Jésus a fait exprès de ne pas arriver à temps. Comme Jésus n'est pas arrivé à temps pour ma mère. Comme Jésus n'est pas arrivé à temps pour la mère de Jean-Louis, que je connaissais bien, qui venait au culte. Jésus n'arrive jamais à temps. Drôle ça, non? Alors on croit qu'il est dans l'échec, que c'est de la blague, que l'évangile est de la blague. Ah non, les amis. Si Jésus nous fait attendre, c'est parce qu'après, quand on a bien faim, là, qu'on mange un bon beefsteak, frites, salades et poivrées, ou je sais pas, du caviar, je sais pas quoi moi, un plat africain excellent, eh bien, quand on a eu faim, on ne s'est pas empiffré jusqu'à la goulette, là, avant, on s'est bien goûté. Eh bien, quand on en a marre de la mort, et de l'œuvre de la mort, et de l'œuvre du péché d'Adam et Ève, on sait apprécier la puissance de Christ. Et l'Église doit apprécier la puissance de Christ. L'Église doit découvrir avec soif, avec intensité, la vérité de Jésus-Christ. Quand on n'a pas soif dans une Église, c'est l'Odyssée. Moussarde. Apocalypse chapitre 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voilà, voici celui que tu aimes est malade. » Donc Jésus les aime. Mais il n'est pas venu. Jésus était dans la montagne, il les envoie en barque. Allez de l'autre côté, je viendrai tout près de vous. Puis il y a la tempête, mais ils sont secoués. Jésus prie. Jésus qui est Dieu, voit ce qui se passe dans la barque. Tout d'un coup, il marche sur l'eau, ils le prennent pour un fantôme. Nous aussi, nous prenons souvent Jésus pour un fantôme. Nous ne croyons pas qu'il agit. Nous sommes des incrédules. C'est une maladie, l'incrédulité. Celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Le cœur de la vie chrétienne, quoi qu'il m'arrive, que j'ai une maladie, que je vieillisse, que j'ai mal aux genoux, que j'ai mal au dos, allez, toute la séquelle qui peut arriver, hein, vous le connaissez. On fait partie de la tribu des Tamalou à un moment donné. Eh bien, ce qu'il y a, tout est pour la gloire de Dieu. Osez-vous le dire à Jésus tous les jours. J'avais l'arthrose dans la tête. Mais, les amis, c'était épouvantable. Pris de haut, tout ça, envie. Je disais à ma femme qu'on me coupe la tête, qu'on en mette une autre. Et Jackie me dit, mais tu nous as appris que quand on avait des épreuves, il fallait rendre grâce. Jackie, tu nous as appris que... Alors, humblement, j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce, je te remercie de l'épreuve que tu me donnes. Vous savez que ça est parti après. Il y a une jeune femme handicapée, là, au Luxembourg, à Scheigen, qui a appris en allemand, je l'écoutais, et j'avais comme un fer à repasser des mains sur ma nuque. Je dis, Seigneur, si c'est toi, je me laisse faire. Mais, le fait que Jackie m'ait dit ça, je me suis rendu compte que la parole que j'avais enseignée, à Jackie comme aux autres, ne m'appartenait pas. Elle n'est pas liée. Elle m'est revenue, en retour. Donc l'Église, c'est quoi? L'Église, c'est un va-et-vient de paroles, c'est un retour des paroles, et personne n'est propriétaire de la parole. Ça va? Et ce qu'il y a, c'est la parole qui transforme nos vies. C'est la parole qui nous permet de rendre gloire à Dieu, même quand apparemment tout va mal. Ça va? Si vous savez cela, vous avez tout compris. Cette maladie n'est point la mort, elle l'est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Est-ce que j'ai glorifié Jésus en me levant? Est-ce que je vais le glorifier au milieu de la journée? Est-ce que je vais le glorifier au soir? Et si je ne dors pas la nuit, est-ce que je le glorifie? Vous savez, c'est mon problème avec le Seigneur. Mais, si vous avez de la chance, il y a quelqu'un dans l'Église qui veut vous dire un jour, « Mais est-ce que tu pries ?» Bon, je vois qu'on est dans l'état que tu es. Ou, est-ce que tu rends grâce à Dieu? Ben non. Je suis enragé sur un tel ou une telle. Non, il n'y a rien qui va, j'ai pas de sous, non. Mais rends grâce. Rends grâce, mon frère. Rends grâce, ma sœur. L'Église, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers, l'Église. C'est le monde des humains qui s'humilie et qui reconnaît que Jésus est avec nous. Jésus nous conduit, Jésus intervient. Quand le bateau va couler, Jésus arrive sur la barque et il marche à côté dans l'eau. Ou dans l'autre cas, la figure, il était dans la barque, il semblait dormir. Il ne faut pas réveiller Jésus, il est toujours réveillé. C'est nous qui devons nous réveiller. de notre incrédulité. Chers amis, l'Église a la puissance spirituelle d'appartenir à Jésus. L'Église a la puissance spirituelle d'être pour l'éternité dans le bon chemin. Et Jésus a dit dans Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » C'est des versets qu'il faut connaître par cœur. Dans Jean 11, verset 40, « Ne t'ai-je pas dit, et 41, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Vous savez, pour finir, nous avons l'immense privilège d'être des gagnants. Puisque nous appartenons à Christ et que nous verrons la gloire de Dieu. Et que nous ne sommes pas dans la mort. Nous sommes dans la vie divine. Si quelqu'un veut chanter, proposer un chant. Si quelqu'un veut donner un témoignage.
Jésus dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il sera sauvé. Si tu crois, tu verras,
oui,
si tu crois, tu verras, tu verras.
Comme mon fils Eli a parlé tout à l'heure, donc ces derniers temps on a eu deux enterrements dans la famille. Il y a eu la maman de papa qui est décédée et comme vous le savez à peu près tous, on l'a accompagnée vraiment jusqu'à la porte du Seigneur, quoi. C'était magnifique, c'était triste et magnifique à la fois. Et on a été vraiment nourris par cette espérance de la vie éternelle et ça nous a vraiment donné une profonde consolation. Même à nos enfants, c'était triste et vraiment magnifique, c'est ce que je peux dire. Et puis, dans la semaine, on a été à l'enterrement d'une autre grand-mère dans ma belle famille, dans la belle famille de mon frère. Et c'est une famille qui n'est pas avec le Seigneur, c'est une famille qui croule sous des fardeaux, de lourds fardeaux spirituels. Et il y a déjà eu beaucoup de morts dans cette famille-là, on voit vraiment qu'il y a comme une ombre qui plane sur cette famille. Et nous y sommes allés avec nos enfants, avec Élie, notre grand. Et il a été vraiment interpellé de voir la différence entre un enterrement chrétien et un enterrement de personnes qui ne croient pas. Et de voir cette tristesse qui abattait vraiment les gens. Et cette désespérance en fait. Et ça m'a mis dans mon cœur, voilà, je me suis dit quel cadeau immense on a. C'est même pas l'espérance de la vie éternelle, c'est l'assurance de la vie éternelle. Et c'est vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire, même à offrir à nos enfants. Dans la famille, on a des enfants, il y a des enfants de cousins et tout ça, qui ont été traumatisés par des morts. On a un petit cousin, sa maman a dû l'emmener chez une psychologue pendant un an, suite à la mort de son grand-père, parce que le gamin n'a pas... Il était dans la révolte, il était dans la tristesse, il ne s'en remettait pas. Et à part lui dire que le papier était dans les étoiles, les parents ne savaient rien dire d'autre, quoi, pour le consoler. Et donc, on a eu à cœur, Bénédicte et moi, d'offrir justement un livre pour enfants sur la résurrection de Lazare, avec le passage qu'on vient juste de lire. « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi sera sauvé ». Il y a un livre qui a été fait exprès pour les enfants aux éditions BLF, très très bien. Et à notre marché d'automne, on a pu l'offrir aux deux petits cousins. Et donc, on peut prier pour que le Seigneur les touche. Pas seulement les enfants, évidemment, mais aussi les parents qui pourront lire le livre. et que cette espérance, plus que cette espérance, cette assurance de la vie éternelle puisse venir dans leur cœur et qu'ils puissent être sauvés. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Si on peut prier pour ça, c'est bien.
Mm-hmm. Ah oui, amen. Mm-hmm.
Alors, il y a un grand problème de notre société, c'est que, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est que cette dame-là, qui vient de décéder, justement, 92 ans, qui s'appelait Denise, a voulu plusieurs fois venir au culte. Au moins 8 ou 10 fois, elle demandait. On a été en visite deux fois, mais elle soupirait à venir au culte. Elle était déjà venue à un culte, je ne sais pas, à une fête de l'église, elle avait entendu la parole de Dieu, et son entourage, non, c'est trop long, c'est 2 heures, tu ne tiendras pas le coup, etc. Et pourtant, je lui ai dit, je vais venir la chercher. Oh non, de l'amènera, etc. Rien n'a été fait, elle a été privée de venir ici. Vous n'imaginez pas à quel point les personnes souhaiteraient venir, parce qu'avec le bilan de leur vie, ils réalisent le grand besoin de Dieu qu'ils ont. Et c'était son cas. Et donc elle l'a fait dire, elle a dit à sa fille, oui, non, à sa belle-fille, fais venir Jean. Quel Jean, il y a des gens dans leur famille. Non, Jean le pasteur. Et puis ensuite, elle l'a dit à d'autres. Pour finir, ils ont cédé, j'y étais une fois à l'hôpital. Mais si vous voulez, à l'hôpital, j'ai pu lui parler de l'autorité de Jésus sur la mort, la résurrection et la maladie. Mais ce qui est, l'infirmière est arrivée, elle a tripoté la voisine d'à côté, elle a mis le rideau et tout. Je sais que cette femme voulait faire un bilan de sa vie, dire un petit peu les choses graves également de sa vie et qu'on demande pardon à Dieu ensemble. C'est pour ça qu'elle m'a appelé, qu'elle voulait me voir. C'est pour ça que je voulais venir au culte. À la sortie du culte, je voulais qu'on fasse ça. Et je sentais ça, je le sens tout de suite quand c'est comme ça. Puis je connais les détails de sa vie, pas. Je circule tellement que j'apprends toujours plein de choses, même quand les gens ne me disent rien. Alors ce qui se passe, donc la voisine a été mise sur la petite table, sur sa chaise, à la petite table, et puis on est venu la chercher, mais à la petite table. Donc le temps que j'ai eu avec cette personne était, j'appelle ça médiocre. Non pas comme il aurait dû se dérouler. Le monde s'arrange pour la médiocrité. Il s'organise pour la médiocrité spirituelle. Le monde piétine le spirituel. Et quand moi j'ai eu ça plusieurs fois, à d'autres places on m'a même prié de sortir. Alors il faut bien savoir que les personnes ont un grand besoin spirituel dans les dernières années de leur vie, derniers mois, derniers jours. Nous, en tant qu'Église, on doit prier pour ceux qui sont au terme de leur vie. Il faut prier. Que le Saint-Esprit les assiste, que le Saint-Esprit vienne auprès d'eux. Dieu est tout-puissant, il est partout. Et j'ai dû prier de cette façon pour cette femme, pour Denise. Tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. Maintenant, son petit-fils, qui est alcoolique, qui est à l'internat, qui est tout jaune, vraiment jaune, c'est le cancer, comme le foulard de Happiness, c'est jaune comme ça, hein, c'est le cancer du foie, ça, au dernier stade. Eh bien, pratiquement, là, maintenant, il va mourir. Là, il se laisse mourir, il est à l'hôpital. J'ai demandé à aller le voir. On m'a répondu, il y a des visites prévues, c'est pas possible. Cet homme n'a-t-il pas droit à la parole de Dieu et au salut? Notre monde, même dans nos proches, qui font partie du monde, ne veulent pas du salut de Christ. C'est très difficile. Il faut prier, pour que Dieu fasse éclater tous ces blindages. Ces blindages qui n'appartiennent qu'à Satan. Mais c'est dur. Moi, en servant le Seigneur, c'est très dur de supporter ça. Parce que j'ai envie de faire tout péter, mais je ne peux pas. J'ai envie de leur dire quelle vérité. Dans le temps, ça ne se passait pas comme ça. Ça fait 25-30 ans que c'est comme ça. On s'organise pour que celui qui part pour la mort n'aille pas vers Dieu. Ça, c'est quelque chose de remarquable dans nos sociétés ici européennes. Priez pour ça, s'il vous plaît. Que les âmes qui confessent leur péché à Jésus aient, par la manifestation du Saint-Esprit, le temps de confesser leur péché à Dieu et d'accepter le salut dans leur cœur. Puisque on nous barre le chemin souvent.